Livre cinquième, L'Afcadio.
There is only one remedy. One thing alone can cure us from being ourselves. Yes, strictly speaking, the question is not how to get cured, but how to live.
Joseph Conrad, Lord Jim, page 226. Chapitre 1. Après que, par l'intermédiaire de Julius et l'assistance du notaire, L'Afcadio fut entré en possession des 40 000 livres de rente que feu le comte juste Agénor de Baralioul lui laissait, son grand souci fut de n'en laisser rien paraître. « Dans de la vaisselle d'or, peut-être, s'était-il dit alors, mais tu mangeras des mêmes plats. » Il ne prenait pas garde à ceci, ou ne savait pas encore que pour lui désormais le goût des mets allait changer. Ou du moins, comme il trouvait égal plaisir à lutter contre l'appétit, à céder à la gourmandise, maintenant que ne le pressait plus le besoin, sa résistance se relâchait. Parlons sans image, d'aristocratique nature, il n'avait permis à la nécessité de lui imposer aucun geste, qu'il se fût permis à présent, par malice, par jeu et par l'amusement, de préférer à son intérêt son plaisir. Se conformant aux volontés du comte, il n'avait donc pas pris le deuil. Une mortifiante déconvenue l'attendait chez les fournisseurs du marquis de Gèvres, son dernier oncle, lorsqu'il se présenta pour monter sa garde-robe. Comme il se recommandait de celui-ci, le tailleur sortit quelques factures que le marquis avait négligé de payer. L'Afcadio répugnait aux filouteries. Il feignit aussitôt d'être venu précisément pour régler ses notes, et paya comptant les nouveaux vêtements. Même aventure chez le bottier. Quant au chemisier, l'Afcadio jugea plus prudent de s'adresser à un autre. L'oncle de Gèvres, si seulement je savais son adresse, j'aurais plaisir à lui envoyer acquitter ses factures, pensait L'Afcadio. Cela me vaudrait son mépris, mais je suis Baralioul, et désormais, coquin de marquis, je te débarque de mon cœur. Rien ne le retenait à Paris, ni ailleurs. Traversant l'Italie à petite journée, il gagnait Brindisi, d'où il pensait s'embarquer sur quelque Lloyd pour Java. Tout seul dans le wagon qui l'éloignait de Rome, il avait, malgré la chaleur, jeté en travers de ses genoux un moelleux plaid, couleur de thé, sur lequel il se plaisait à contempler ses mains gantées, couleur de cendre. À travers la souple et floconneuse étoffe de son complet, il respirait le bien-être par tous ses pores, le cou non serré dans un col presque haut mais peu empesé, d'où s'échappait, mince comme un orvet, une cravate et foulard bronzé sur la chemise à plis. Il se sentait bien dans sa peau, bien dans ses vêtements, bien dans ses bottes, de souples mocassins taillés dans le même daim que ses gants. Dans cette prison molle, son pied se tendait, se cambrait, se sentait vivre. Son chapeau de castor, rabattu devant ses yeux, le séparait du paysage. Il fumait une pipette de genièvre et abandonnait ses pensées à leur mouvement naturel. Il pensait... La vieille, avec un petit nuage blanc au-dessus de sa tête et qui me le montrait en disant « La pluie, ça ne sera pas encore pour aujourd'hui. » Cette vieille dont j'ai chargé le sac sur mes épaules, par fantaisie il avait fait à pied en 4 jours la traversée des Apennins entre Bologne et Florence, couchant à Covigliaggio, et que j'ai embrassé au haut de la côte. Ça fait partie de ce que le curé de Covigliaggio appelait les bonnes actions. Je l'aurais tout aussi bien serré à la gorge, d'une main qui ne tremble pas, quand j'ai senti cette sale peau ridée sous mon doigt. Ah! Comme elle caressait le col de ma veste pour en enlever la poussière, en disant « Figlio mio, carino !» D'où me venait cette intense joie, quand, après, et encore en sueur, à l'ombre de ce grand châtaignier, et pourtant sans fumée, je me suis étendue sur la mousse. Je me sentais d'étreinte assez large pour embrasser l'entière humanité, ou l'étrangler, peut-être. Que peu de choses la vie humaine, et que je risquerais la mienne agilement si seulement s'offrait quelques belles prouesses un peu joliment téméraires à oser. Je ne peux tout de même pas me faire alpiniste ou aviateur. Qu'est-ce que me conseillerait ce claquemuré de Julius? Fâcheux qu'il soit emporté, ça m'aurait plu d'avoir un frère. Pauvre Julius, tant de gens qui écrivent et si peu de gens qui lisent. C'est un fait, on lit de moins en moins. Si j'en juge par moi, comme disait l'autre. Ça finira par une catastrophe, quelque belle catastrophe, tout imprégnée d'horreur. On foutra l'imprimé par-dessus bord, et ce sera miracle si le meilleur ne rejoint pas au fond le pire. Mais la curiosité, c'est de savoir ce que la vieille aurait dit si j'avais commencé de serrer. On imagine ce qui arriverait si... Mais il reste toujours un petit laps par où l'imprévu se fait jour. Rien ne se passe jamais tout à fait comme on aurait cru. C'est là ce qui me porte à agir. On fait si peu. Que tout ce qui peut être soit. C'est comme ça que je m'explique la création. Amoureux de ce qui pourrait être. Si j'étais l'État, je me ferais enfermer. Pas très étourdissante la correspondance de ce monsieur Gaspard Flamand que j'ai été réclamée comme mienne à la poste restante de Bologne. Rien qui valut la peine de lui être renvoyé. Dieu, qu'on rencontre peu de gens dont on souhaiterait fouiller les valises. Et pourtant qu'il en ait peu dont on obtiendrait avec tel mot, tel geste, quelque bizarre réaction. Belle collection de marionnettes. Mais les fils sont trop apparents, par ma foi. On ne croise plus dans les rues que gens foutres et paltoqués. Est-ce le fait d'un honnête homme, l'Afcadio, je vous le demande, de prendre cette farce au sérieux? Allons, plions bagage, il est temps. En fuite vers un nouveau monde, quittons l'Europe en imprimant notre talon nu sur le sol. S'il est encore à Bornéo, au profond des forêts, quelque anthropopithèque attardé, là-bas, nous irons supputer les ressources d'une possible humanité. J'aurais voulu revoir Protos, sans doute il a cinglé vers l'Amérique. Il n'estimait, prétendait-il, que les barbares de Chicago. Pas assez voluptueux pour mon goût, ces loups. Je suis de nature féline. Passons. Le curé de Covigliaggio, si débonnaire, ne se montrait pas d'humeur à dépraver beaucoup l'enfant avec lequel il causait. Assurément, il en avait la garde. Volontiers, j'en aurais fait mon camarade, non du curé, parbleu, mais du petit. Quels beaux yeux il levait vers moi, qui cherchait aussi inquiètement mon regard que mon regard cherchait le sien, mais que je détournais aussitôt. Il n'avait pas 5 ans de moins que moi. Oui, 14 à 16 ans, pas plus. Qu'est-ce que j'étais à cet âge? Un stripling, plein de convoitises, que j'aimerais rencontrer aujourd'hui. Je crois que je me serais beaucoup plu. Fabi, les premiers temps, était confus de se sentir épris de moi. Il a bien fait de s'en confesser à ma mère, après quoi son cœur s'est senti plus léger. Mais combien sa retenue m'agaçait. Quand plus tard, dans l'Aurès, je lui ai raconté cela sous la tente, nous en avons bien ri. Volontiers, je le reverrais aujourd'hui. C'est fâcheux qu'il soit mort. Passons. Le vrai, c'est que j'espérais déplaire au curé. Je cherchais ce que je pourrais lui dire de désagréable. Je n'ai rien su trouver que de charmant. Que j'ai de mal à ne paraître pas séduisant. Je ne peux pourtant pas passer au brou de noix mon visage, comme me le conseillait Carola, ou me mettre à manger de l'ail. Ah, ne pensons plus à cette pauvre fille. Les plus médiocres de mes plaisirs, c'est à elle que je les dois. Oh, d'où sort cet étrange vieillard ? Par la porte à coulisses du couloir, Amédée Fleurissoir venait d'entrer. Fleurissoir avait voyagé seul dans son compartiment jusqu'à la station de Frosinone. À cet arrêt du train, un Italien entre deux âges était monté dans le wagon, s'était assis non loin de lui et avait commencé à le dévisager d'un air sombre qui promptement invita Fleurissoir à déguerpir. Dans le compartiment voisin, la jeune grâce de l'Afcadio, tout au contraire, l'attira. « Ah, l'aimable garçon ! Presque un enfant encore, pensa-t-il. En vacances, sans doute. Qu'il est bien mis. Son regard est candide. Quel repos ce sera de dépouiller ma défiance. S'il savait le français, je lui parlerais volontiers. » Il s'assit en face de lui, dans un coin près de la portière. L'Afcadio releva le bord de son castor et commença de le considérer d'un œil morne, indifférent en apparence. « Entre ce sale magot et moi, quoi de commun » songeait-il. On dirait qu'il se croit malin. Qu'a-t-il à me sourire ainsi? Pense-t-il que je vais l'embrasser? Se peut-il qu'il y ait des femmes pour caresser encore les vieillards? Il serait bien surpris sans doute d'apprendre que je sais lire, écriture ou imprimée, couramment, à l'envers ou par transparence, au verso, dans les glaces ou sur les buvards. 3 mois d'études et 2 années d'apprentissage, et cela pour l'amour de l'art. Cadio, mon petit, le problème se pose, faire accro à cette destinée. Mais par où? Tiens, je vais lui offrir du cachou. Qu'il accepte ou non, nous verrons toujours bien dans quelle langue. Grazio, grazio, dit Fleurissoir en refusant. Rien à faire avec le tapir. Dormons, reprend à part soi l'Afcadio, et rabattant son castor sur ses yeux, il tâche à faire un rêve d'un souvenir de sa jeunesse. Il se revoit, du temps qu'on l'appelait Cadio, dans ce château perdu des Carpates qu'ils occupèrent, sa mère et lui, 2 étés, en compagnie de Baldi l'Italien et du prince Vladimir Bielkovski. Sa chambre est à l'extrémité d'un couloir. C'est la première année qu'il couche loin de sa mère. La poignée de cuivre de sa porte, en forme de tête de lion, est retenue par un gros clou. Ah ! Que les souvenirs de ses sensations sont précis. Une nuit, il est tiré du plus profond de son sommeil et croit rêver encore en voyant au chevet de son lit l'oncle Vladimir, qui lui paraît plus gigantesque encore que de coutume, fait comme un cauchemar, drapé dans un vaste caftan couleur rouille, la moustache retombée, et coiffé d'un extravagant bonnet de nuit dressé comme un bonnet persan, qui l'allonge jusqu'à n'en plus finir. Il tient à la main une lanterne sourde, qu'il pose sur la table près du lit, à côté de la montre de Cadio, en repoussant un peu un sac de billes. La première pensée de Cadio, c'est que sa mère est morte, ou malade. Il va questionner Bielkovski, quand celui-ci pose un doigt sur ses lèvres et lui fait signe de se lever. En hâte, l'enfant passe la robe de chambre qu'il revêt au sortir du bain, que son oncle a prise au dos d'une chaise, et lui tend. Tout cela, les sourcils roulés, et d'un air à ne point plaisanter. Mais Cadio a si grande confiance en Vladi qu'il n'a pas peur un seul instant. Il enfile ses pantoufles et le suit fort intrigué par ses manières et, comme toujours, en appétit d'amusement. Ils sortent dans le couloir. Vladimir avance gravement, mystérieusement, portant loin devant lui la lanterne. On dirait qu'ils accomplissent un rite ou qu'ils suivent une procession. Cadio chancelle un peu car il est encore ivre de rêve, mais la curiosité bientôt a nettoyé son cerveau. Devant la porte de sa mère, tous deux s'arrêtent un instant, prêtant l'oreille, pas un bruit, la maison dort. Arrivés sur le palier, ils entendent le ronflement d'un valet dont la chambre ouvre près du grenier. Ils descendent. Vladi pose des pieds de coton sur les marches. Au moindre craquement, il se retourne d'un air si furieux que Cadio a peine à ne pas rire. Il indique une marche en particulier, faisant signe de la franchir aussi sérieusement que s'il y eut péril. Cadio ne gâte point son plaisir à se demander si ces précautions sont nécessaires, non plus que rien de ce qu'ils font. Il se prête au jeu et, glissant le long de la rampe, franchit le degré. Il est si prodigieusement amusé par Vladi qu'il traverserait du feu pour le suivre. Quand ils ont atteint le rez-de-chaussée, sur l'avant-dernière marche, tous deux s'assoient pour souffler un instant. Vladi hoche la tête et fait entendre un petit soupir du nez, comme pour dire « Ah, nous l'avons échappé belle !» Ils repartent. Quelle précaution devant la porte du salon! La lanterne qu'à présent tient Cadio éclaire la pièce si bizarrement que l'enfant la reconnaît à peine. Elle lui paraît démesurée. Un peu de lune glisse par l'entrebâillement d'un volet, tout baigne dans une tranquillité surnaturelle, on dirait un étang où l'on va jeter clandestinement l'épervier. Et il reconnaît bien à sa place chaque chose, mais pour la première fois il en comprend l'étrangeté. Vladi s'approche du piano, l'entr'ouvre, caresse du bout du doigt quelques touches qui répondent très faiblement. Tout à coup le couvercle échappe et fait en retombant un boucan formidable. L'Afcadio sursaute encore en y songeant. Vladi se précipite sur la lanterne, qui l'aveugle, puis s'écroule dans un fauteuil. Cadio glisse sous une table. Tous deux restent longtemps dans le noir, sans remuer, aux écoutes. Mais rien, rien n'a bougé dans la maison. Au loin, un chien jappe à la lune. Alors, doucement, lentement, Vladi redonne un peu de lumière. Dans la salle à manger, de quel air il tourne la clé du buffet. L'enfant sait bien que ce n'est là qu'un jeu, mais l'oncle y semble pris lui-même. Il renifle, comme pour flairer où cela sent le meilleur, s'empare d'une bouteille de Tokaï, en verse deux petits verres où trempait des biscuits, il invite à trinquer, un doigt sur les lèvres, le cristal sonne, imperceptiblement. La collation nocturne terminée, Vladi s'occupe à tout remettre en ordre. Il va rincer avec Cadio les verres dans le baquet de l'office, les essuie, rebouche la bouteille, referme la boîte à biscuits, époussette méticuleusement les miettes, regarde une dernière fois le tout bien à sa place dans l'armoire, ni vu, ni connu. Vladi réaccompagne Cadio jusqu'à sa chambre et le quitte avec un profond salut. Cadio reprend son somme où il l'avait laissé et se demandera le lendemain s'il n'a pas rêvé tout cela. Drôle de jeu pour un enfant. Qu'eût pensé de cela, Julius ? L'Afcadio, bien que les yeux fermés, ne dort pas. Il ne parvient pas à dormir. « Le petit vieux que je sens là croit que je dors, pensait-il. Si j'en trouverais les yeux, je le verrais qui me regarde. Protos prétendait qu'il est particulièrement difficile de feindre de dormir tout en prêtant attention. Il se faisait fort de reconnaître le faux sommeil à ce léger petit tremblement des paupières que je réprime en ce moment. Protos lui-même y serait pris. Le soleil cependant s'était couché. Déjà s'atténuaient les reflets derniers de sa gloire que Florissoir ému contemplait. Tout à coup, au plafond voûté du wagon, l'électricité jaillit dans le lustre. Éclairage trop brutal auprès de ce crépuscule attendri, et par crainte aussi qu'il ne troublât le sommeil de son voisin, Florissoir tourna le commutateur, ce qui n'amena point l'obscurité complète, mais dériva le courant du lustre central au profit d'une lampe veilleuse azurée. Au gré de Florissoir, cette ampoule bleue versait trop de lumière encore. Il donna un tour de plus à la clavette. La veilleuse s'éteignit, mais s'allumèrent aussitôt deux appliques pariétales, plus désobligeante que le lustre du milieu. Un tour encore, et la veilleuse de nouveau. Il s'y tint. « A-t-il bientôt fini de jouer avec la lumière ?» pensait l'Afcadieu impatienté. « Que fait-il à présent ?»« Non, je ne lèverai pas les paupières. »« Il est debout. »« Serait-il attiré par ma valise ?»« Bravo ! Il constate qu'elle est ouverte. » Pour en perdre la clé aussitôt, c'était bien adroit d'y avoir fait mettre à Milan une serrure compliquée qu'on a dû crocheter à Bologne. » Un cadenas du moins se remplace. Dieu me damne, il enlève sa veste. Ah, tout de même, regardons. Sans attention pour la valise de l'Afcadio, Florissoir, occupé à son nouveau faux col, avait mis bas sa veste pour pouvoir le boutonner plus aisément. Mais le madapolam pesé, dur comme du carton, résistait à tous ses efforts. Il n'a pas l'air heureux, reprenait à part soi l'Afcadio. Il doit souffrir d'une fistule ou de quelque affection cachée. L'aiderai-je ? Il n'y parviendra pas tout seul. Si, pourtant, le col enfin admit le bouton. Florissoir reprit alors, sur le coussin où il l'avait posé, près de son chapeau, de sa veste et de ses manchettes, sa cravate, et, s'approchant de la portière, chercha comme Narcisse, sur l'onde, sur la vitre, à distinguer du paysage son reflet. Il n'y voit pas assez. L'Afcadio redonna de la lumière. Le train longeait alors un talus, qu'on voyait à travers la vitre, éclairé par cette lumière de chaque compartiment projeté. Cela formait une suite de carrés clairs qui dansaient le long de la voie et se déformaient tour à tour selon chaque accident du terrain. On apercevait au milieu de l'un d'eux, danser l'ombre falote de Florissoir, les autres carrés étaient vides. « Qui le verrait ?» pensait l'Afcadio. « Là, tout près de ma main, sous ma main, cette double fermeture. » Que je peux faire jouer aisément, cette porte qui, cédant tout à coup, le laisserait crouler en avant. Une petite poussée suffirait, il tomberait dans la nuit comme une masse. Même, on n'entendrait pas un cri. Et demain, en route pour les îles, qui le saurait ? La cravate était mise, un petit nœud marin tout fait. À présent, Florissoir avait repris une manchette et l'assujettissait au poignet droit, et ce faisant, il examinait, au-dessus de la place où il était assis tout à l'heure, la photographie, une des quatre qui décorait le partiment, de quelques palais près de la mer. « Un crime immotivé, » continuait l'Afcadio. « Quel embarras pour la police ! Au demeurant, sur ce sacré talus, n'importe qui peut, d'un compartiment voisin, remarquer qu'une portière s'ouvre et voir l'ombre du chinois cabriolet. » Du moins, les rideaux du couloir sont tirés. Ce n'est pas tant des événements que j'ai curiosité, que de moi-même. Tel se croit capable de tout, qui, devant que d'agir, recule. Qu'il y a loin, entre l'imagination et le fait, et pas plus le droit de reprendre son coup qu'aux échecs. Bah, qui prévoirait tous les risques, le jeu perdrait tout intérêt. Entre l'imagination d'un fait et... Tiens, le talus cesse. Nous sommes sur un pont, je crois. Une rivière. Sur le fond de la vitre, à présent noir, les reflets apparaissaient plus clairement. Florissoir se pencha pour rectifier la position de sa cravate. Là, sous la main, cette double fermeture, tandis qu'il est distrait et regarde au loin devant lui, joue, ma foi, plus aisément encore qu'on eût cru. Si je puis compter jusqu'à 12, sans me presser, avant de voir dans la campagne quelque feu, le tapir est sauvé. Je commence. 1, 2, 3, 4, lentement, lentement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, un feu.